Je suis désolé pour la semaine dernière, mais mon cours a été annulé d'une manière totalement imprévue, donc je n'ai pas pu vous faire prévenir plus tôt. Ce cours sera rattrapé au mois de janvier, je vous donnerai les détails ultérieurement. J'ai abordé la fois dernière la personnalité de Lorenzo Ghiberti. Ghiberti, que vous connaissez, je pense, essentiellement comme artiste, en tant que sculpteur, sculpteur génial, et sans doute beaucoup moins comme l'auteur de ces fameux commentari, donc de ces commentaires qui ont été étudiés essentiellement par l'historien de l'art viennois Julius von Schlosser. Alors, les textes de Ghiberti occupent un statut très particulier dans le récit que je tente de faire devant vous de la genèse d'une histoire qui, peu à peu, s'intéresse à l'art. Je vais déjà commencer par un texte qui a un aspect, vous allez le constater, historique, c'est-à-dire il y a des références là à des événements réel, aussi des références à des mythes qui sont une des composantes essentielles de l'histoire. Et nous verrons comment Ghiberti se sert à la fois des mêmes modèles que ces autres auteurs que j'ai étudiés, par exemple Pétrarque ou que Alberti, c'est-à-dire puise abondamment dans la littérature antique, en particulier dans l'histoire naturelle de Pline, mais comment en même temps il a une vision tout à fait originale par rapport à tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Je dirais même que la vision de Ghiberti, que Ghiberti a de l'art est quelque chose qui va se trouver sans fortune véritable, sans appréciation positive véritable à cause de Vasari. Je dirais que Vasari introduira une histoire de l'art tout à fait autre, et on peut dire que Ghiberti a repris de l'importance au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, en tant que, encore une fois, en tant qu'écrivain, pas, je ne parle pas de l'artiste lui-même, bien entendu. Alors, voici cet extrait du deuxième commentaire, des commentaires de Ghiberti. La foi chrétienne triompha au temps de l'empereur Constantin et du pape Sylvestre. L'idolâtrie fut combattue de telle façon que toutes les statues et peintures de grande noblesse, ancienneté et perfection furent détruites et mises en morceaux. Et avec les statues et les peintures, les écrits théoriques, les commentaires, les dessins et les règles pour l'apprentissage de ces arts si éminents et nobles furent détruit. Ici, il faut relever le fait que pour Ghiberti, il est absolument évident qu'il a existé une tradition théorique de l'Antiquité, qu'il a existé des écrits que les artistes destinaient à l'expression d'une théorie personnelle transmise, à transmettre à d'autres artistes. Autrement dit, il conçoit que dans l'Antiquité, les choses se passaient exactement comme de son temps. Si on prend par exemple comme référence les écrits d'un Alberti. Et donc toute cette masse de documents théoriques, mais aussi pratiques, parce qu'il parle également des dessins, il ne parle pas seulement des écrits, des règles pour l'apprentissage, mais aussi des dessins, donc sans doute à la fois des écrits théoriques et des règles pratiques pour les artistes, que toute cette documentation aurait purement et simplement disparu. C'est une thèse de Ghiberti. Évidemment, il n'en a des preuves qu'indirectes, comme nous le verrons. Afin d'abolir toute coutume ancienne d'idolâtrie, il fut décrété que tous les temples seraient peints de couleur blanche. À cette époque, la punition la plus sévère était réservée à quiconque exécuterait sculpture ou peinture. Ainsi cessa l'art de la sculpture et de la peinture et tout l'enseignement qu'on en avait fait. l'art mourut et les temples demeurèrent blancs pour plus de 600 ans. Les Grecs reprirent faiblement l'art de la peinture et des œuvres avec grossièreté, car les peuples de ce temps étaient aussi frustes et grossiers que les anciens étaient habiles. Ceci se passait sous la 382e Olympiade, après la construction de Rome. Donc, il y a ici un schéma extrêmement simple. Aux yeux de Liberti, c'est celui que nous avons déjà évoqué à propos de Pétrarque, à savoir que la coupure intervient au moment où le christianisme est introduit dans l'Empire par Constantin, et qu'à partir de là, on procède à une destruction pure et simple du patrimoine antique. C'est ainsi que Ghiberti voit également les choses. Cessa l'art de la sculpture et de la peinture et l'enseignement qu'on en avait fait. Donc il y aurait une brutale rupture manifestée par l'iconoclasme, évidemment, et justifiée, mais cela, il ne le dit pas vraiment, justifiée par l'introduction d'une religion nouvelle. Il est très étonnant qu'il ne fasse pas vraiment allusion aux raisons qui auraient, selon lui, poussé les hommes à renoncer à l'héritage antique. Et alors, ces Grecs qui reprirent faiblement, dit-il, l'art de la peinture, ce sont évidemment les Byzantins. Donc pour lui, l'art byzantin, c'est quelque chose qui se manifeste la grossièreté. Il parle de l'art, d'un art fruste qui s'opposerait à l'habileté des anciens. Je poursuis. L'art de la peinture commença à naître en Étrurie, dans un village nommé Vespignano, près de la ville de Florence. C'est là que naquit un garçon d'un talent admirable qui dessinait un mouton d'après nature lorsque le peintre Cimabue, passant par là en route pour Bologne, aperçut le jeune homme assis à terre et dessinant sur une dalle de pierre. Frappé d'admiration envers le garçon qui, malgré sa jeunesse, dessinait si bien, et sentant que son habileté lui venait tout naturellement, Cimabue lui demanda son nom. Le garçon répondit « Je m'appelle Giotto. Mon père se nomme Bondoni et il vit dans cette maison toute proche. » Cimabue, qui avait belle allure, se rendit avec Giotto chez son père, qui était très pauvre. Il lui confia l'enfant et Cimabue l'emmena avec lui. Giotto devint un disciple de Cimabue, qui était attaché à la manière grecque et avait ainsi acquis une grande renommée en Étrurie. Giotto grandit dans l'art de la peinture. Je reviens tout à l'heure sur ce passage. Il introduisit l'art nouveau de la peinture, arte nuova, dit le texte, et abandonna la grossièreté des Grecs, devenant le meilleur peintre d'Étrurie. De magnifiques œuvres furent exécutées par lui, tout spécialement dans la cité de Florence et dans bien d'autres lieux. Beaucoup, parmi ses disciples, étaient aussi doués que les anciens Grecs. Les anciens Grecs. Giotto voyait dans l'art ce que d'autres n'atteignaient pas. Il rendit l'art naturel et gracieux, sans s'éloigner des proportions. Il fut extrêmement habile dans tous les arts et fut l'inventeur et l'initiateur de beaucoup de méthodes qui avaient été enterrées durant environ 600 ans. Lorsque la nature souhaite octroyer quelque chose, elle le fait sans parcimonie. Il se montrait prolifique en toute chose, travaillant à fresque sur les parois des murs, à l'huile et sur les panneaux. Alors, il est évidemment très intéressant de relever ici plusieurs points. D'abord, l'histoire de Giotto, c'est la première fois que ce récit est rapporté d'une manière aussi détaillée, aussi complète, exactement comme un conte des fées. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Hein. C'est un conte. C'est un conte qui nous présente la rencontre d'un homme illustre qui est un des premiers à rompre avec la tradition de grossièreté que les nouveaux Grecs maintiennent et qui découvre, et on peut dire que là, il y a vraiment l'expression, l'image, enfin la métaphore d'une naissance, d'une initiation, découvre ce jeune garçon et le découvre en train de dessiner, donc en train d'exprimer son talent. Et puis l'histoire de ce père pauvre qui, évidemment, ne peut pas, d'une certaine façon, ne refuse pas à Cimabue de le prendre en apprentissage, bien qu'il ait sans doute besoin de l'enfant pour garder ses troupeaux. Toute l'histoire, la façon dont elle est amenée, a évidemment un ton de vraisemblance, parce qu'il n'y a aucun doute qui soit émis par Ghiberti sur la véracité de ce récit. Il ne le met pas en doute un instant et l'intègre parfaitement dans ce passage de ses commentaires où on a parlé de l'Étrurie, c'est-à-dire d'une région qui joue un très grand rôle dans la recherche des origines antiques de l'Italie, en particulier de la Toscane. Alors, la question du mythe fondateur de l'Étrurie, c'est quelque chose qui a été étudié, un des premiers à l'avoir abordé, par André Chastel, qui, vous le savez sans doute, avait occupé une chaire ici au Collège de France. Il a parlé de l'Etruscan Revival, exactement comme on a parlé du Gothic Revival au XIXe siècle, au XVIIIe déjà. Donc, comme s'il y avait eu au XVe siècle, en Toscane, un mouvement d'intérêt, de curiosité pour l'Étrurie et pour l'art étrusque. Il faut rappeler que déjà en 1282, dans un ouvrage qui s'appelait Libro della Composizione del Mondo, donc le livre de la composition du monde, de Ristoro d'Arezzo, il est question de vases qui seraient nés dans la terre et qui seraient cachés dans la terre dans la région d'Arezzo. Un très joli récit de céramique enfouie dans la terre, née dans la terre, ce qui est encore renforce encore la qualité poétique de l'image. Alors, l'auteur du XIIIe siècle donne certaines précisions dans la description des motifs et des scènes. On peut aussi rappeler que Alberti, dans son traité de la peinture, dans le livre 2, dit que, je cite, « Nos Toscans antiques furent en Italie maîtres dans la peinture par contour, di pingere peritissimi », par contour, c'est-à-dire, en fait, la silhouette, le dessin de la silhouette. Et c'est une référence directe à Parasios, tel qu'en parle Pline dans le 35e livre de son Histoire naturelle. Alors, au XVe siècle, cet intérêt pour les Étrusques se portait en particulier pour leurs vases à décors en relief, donc des décors relativement plats, des décors en méplats, et aussi pour les vases grec à figure rouge qu'on avait retrouvé. Le goût étrusque est assez vif dans le cercle de Laurent de Médicis. Il collectionnait lui-même les vases et plus tard, Giorgio Vasari va raconter que son grand-père, qui était potier à Arezzo, offrit certains de ses vases à Laurent de Médicis. Là, j'anticipe un peu sur l'époque suivante, mais enfin, c'est tout à fait intéressant de voir que cette étruscomanie qui commence vraiment à se manifester au XVe siècle, ne va pas cesser tout au long du XVIe. Et ce mythe étrusque, car il s'agit bien entendu d'un mythe, qui permet de donner une origine antique à l'art florentin qui est en train de se développer en plein XVe siècle, ce mythe étrusque est entretenu par les érudits florentins. Dans les époques antérieures au XVe siècle, on avait abondamment pillé des tombes étrusques pour en extraire des objets, notamment des vases. Mais maintenant, il ne s'agit plus simplement de pillage, il s'agit d'un intérêt archéologique pour l'Étrurie. Et on voit dans ces objets qu'on extrait du sol un modèle pour le présent. Donc, comme si on ravivait cette mémoire ancienne, antique, pour en faire un modèle pour le présent. En 1494, par exemple, on va fouiller le mot, évidemment avec les méthodes de l'époque, mais enfin, c'est tout de même une fouille archéologique, on va fouiller sur le site le plus célèbre, celui de Tarquinia, une tombe près de Sesto Fiorentino. Et dans un carnet de voyage entre 1491 et 1495, dont certains feuillets sont conservés au musée des Offices, on voit comment un artiste et architecte comme Francesco di Giorgio note la présence d'un relief d'une urne funéraire étrusque dont l'original est perdu. Et puis un auteur plus tardif qui a un certain intérêt, non pas pour ce que je raconte aujourd'hui sur Ghiberti, mais plutôt pour les vies qu'écrira Vasari, mais je le cite dès à présent parce que ça se situe dans le même intérêt pour l'Étrurie. Raffaele Maffei publie en 1530 un ouvrage où il insiste sur le rôle du mythe étrusque comme origine de la Renaissance florentine. Il y avait aussi, pas seulement à Florence, mais à Viterbe, un très grand intérêt qui était manifesté pour l'art étrusque. Alors Ghiberti, dans ses commentaires, j'en ai déjà dit un mot, revendique un choix très subjectif des artistes de Florence et de Sienne qu'il mentionne. Il en choisit un certain nombre et, par conséquent, écarte les autres comme sans doute des artistes secondaires ou épigoneux. Par exemple, il parle évidemment de Giotto comme le fondateur d'un art nouveau et ses élèves immédiats, Stefano, Taddeo Gaddi, Maso di Banco. Là, on est dans la même série que chez Villani. Puis, il cite d'autres artistes. Il a une connaissance apparemment bien plus développée que ne l'avait Villani du monde artistique. Bonamico, Orcagna, Andrea Pisano, Cavallini, Duccio, Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini, Lippo Memmi et Barna. Il est en fait curieusement peu éloquent au sujet de ses collègues pisans. Et ainsi, sur Nicola Pisano, il ne dit rien. Il ne mentionne que son nom, ce qui est très surprenant, tout de même un sculpteur comme lui, et il parle bien davantage de Giovanni et de Andrea. Et de Giovanni, pardon, Pisano, oui, c'est ça, et de Andrea, que de Nicolas. Mais la biographie la plus détaillée que nous donne Ghiberti est celle du Siennois Ambrogio Lorenzetti, dont on connaît l'admirable cycle de peinture qui existe encore aujourd'hui à Sienne. Alors, il faut bien insister sur l'originalité de ces commentaires de Ghiberti par rapport à ce que nous avons vu, par exemple, dans le livre de Villani. Déjà, dans son traitement de la biographie, je vous avais dit, c'était très important de le souligner, que Villani a lui-même fait le constat qu'il ne faut pas traiter tous les artistes des différentes techniques, que ce soit des peintres, des sculpteurs, mais aussi des écrivains, des poètes, ou même d'autres figures d'intellectuels, il ne faut pas les traiter en même temps, dans une sorte de séquence historique progressive. Il faut les regrouper par art, donc par technique, en quelque sorte. Et c'est là qu'on voit, dit-il, les véritables progrès accomplis. Et ça, c'était une thèse, je dirais même une véritable philosophie de l'histoire. Chez Ghiberti, il y a une autre philosophie de l'histoire, qui, à mon avis, est beaucoup plus importante, beaucoup plus radicale, mais qui est restée immédiatement sans lendemain. En effet, Ghiberti détache les faits biographiques et donc la vie quotidienne de l'artiste de l'œuvre elle-même. Il considère les œuvres en soi, comme des objets, comme des réalités qui n'ont pas à être en quelque sorte parasité par des réflexions plus ou moins pertinentes faites à partir de faits biographiques de l'artiste, sur l'artiste. C'est donc davantage une histoire de l'activité artistique que propose Ghiberti qu'une histoire des artistes, et encore moins qu'une biographie au sens définitif que va donner à ce mot, ou plutôt à ce genre, Giorgio Vasari. Ensuite, deuxième constat, qui pour moi est très important dans tout le fil de ce que je veux vous dire cette année et sans doute l'année prochaine. Ensuite, Villani ne connaissait l'Antiquité ou Cimabue, dont il nous parle, qu'à travers des traditions littéraires. Il ne connaissait pas les œuvres de ces artistes de l'Antiquité. Il les connaissait à travers ce qu'il en lisait. Il en connaissait de Cimabue à travers ce qu'on en a dit, ce que d'autres que lui en ont dit. Tout autre est l'attitude de Ghiberti de ce point de vue. Ce qu'il écrit part d'une connaissance personnelle des œuvres. Il porte un regard singulier, parfaitement informé, d'une grande compétence, puisqu'il est lui-même artiste, sur les œuvres des artistes dont il parle. Et ce qui compte, par conséquent, ce n'est pas de visiter les ateliers pour dialoguer avec les artistes et pour leur, pour leur faire dire l'histoire de leurs œuvres, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres elles-mêmes. Il voudrait, au fond, faire parler les œuvres à la place des artistes. Un autre intérêt de Ghiberti s'explique ainsi facilement. C'est le premier, je dis historien, avec des guillemets, non, vous comprenez pourquoi j'introduis cette nuance, mais c'est le premier à accorder aussi une très grande importance au dessin, ce qui paraît absolument normal. S'il s'intéresse à la genèse des œuvres, à la façon dont les œuvres elles-mêmes doivent être examinées, analysées, il s'intéresse forcément au dessin. Le dessin est un des moments essentiels dans la morphogénétique des œuvres d'art. Autre grande singularité de Ghiberti, il comprend que malgré l'association de Cimabue et de Giotto dans la plupart des écrits que nous avons vus, lui comprend très bien que ce sont des artistes profondément différents. Le premier, Cimabue, oui, appartient encore à l'Antiquité et il parle à son propos, ainsi qu'à propos de Duccio, de maniera antica ou de maniera greca. Donc, on voit bien que pour lui, l'Antiquité n'est plus simplement un topos littéraire, mais une réalité visuelle, une expérience visuelle. Il sait distinguer dans les œuvres ce qui fait leur singularité. Et il connaît d'une façon empirique ces œuvres. Il a compris aussi l'importance de Sienne, dont l'influence, par exemple, s'étend jusqu'à Naples, tout comme dans la région de Vérone. Et ce savoir empirique, cette proximité avec les œuvres, ce besoin de s'immerger dans les réalia, dans la production des ateliers, c'est quelque chose qu'on va retrouver au XVIIIe siècle, par exemple chez Winckelmann. Et entre Ghiberti et Winckelmann, il y a quelques îlots où nous allons rencontrer des hommes soucieux de ce contact avec les œuvres, mais relativement rares. Alors, en fait, toutes ces originalités que je viens de souligner dans l'œuvre de Ghiberti ce sont des choses que l'on ne va pas retrouver du tout chez Vasari. On va voir comment ces commentaires de Ghiberti constituent d'une certaine manière l'amorce d'une histoire de l'art. Là aussi, il faut mettre des guillemets. Chaque fois que j'utilise cette expression histoire de l'art, il faut mettre des guillemets. Nous ne sommes pas encore ici dans cette discipline que nous connaissons beaucoup mieux aujourd'hui sous un autre aspect, mais nous sommes dans quelque chose qui tend à être, et le mot commentaire, je le trouve particulièrement pertinent, qui tend à être à la fois un commentaire de caractère historique et de caractère analytique et descriptif. C'est-à-dire que Ghiberti n'est pas simplement quelqu'un qui essaye de placer des biographies bien cernées à l'intérieur d'une séquence historique, et finalement à traiter ces biographies d'artistes exactement comme on traiterait la biographie d'un philosophe ou d'un juriste, mais à traiter ces artistes beaucoup moins pour eux-mêmes que pour ceux qui nous ont laissé comme témoignage de leur savoir, de leur imagination plastique. En fait, si Ghiberti avait écrit un livre, j'allais dire complet, enfin une œuvre qui se serait affirmée en tant que telle, mais ce n'était pas son but, il aurait peut-être fait la première histoire de l'art moderne, enfin la première histoire moderne de l'art, si vous préférez, hein, en intégrant ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est une des grandes questions qui me préoccupe cette année. Comment et à partir de quand a-t-on su intégrer dans un même discours à la fois une analyse historique et une analyse des œuvres singulières? Ce sont deux régimes d'écriture qui, a priori, sont opposés. Le récit historique, la narration historique, c'est quelque chose qui nous conduit, j'allais dire, des causes aux effets. Là, le récit qui est fait d'une œuvre, que nous appelons généralement une description, c'est quelque chose qui marque une pause dans ce récit de caractère purement, ou dans cette narrativité purement historique. Alors j'insiste beaucoup sur l'originalité de Ghiberti, n'est-ce pas ? C'est vraiment un texte absolument fondamental que ses commentaires, et tout ce qui est dit là nous fait quitter tout à coup l'ambiance dominante à la fois des écrits de Villani, bien sûr, mais aussi même des écrits d'Alberti, de ce point de vue-là. Et après, nous allons peu à peu entrer dans l'œuvre de Vasari, et vous allez voir que nous allons perdre l'héritage de Ghiberti est en partie perdu chez Vasari, en grande partie perdu. Alors, justement, je parle de tradition perdue, bien justement, Ghiberti, lui aussi, dit que la tradition antique est perdue, que la chute de l'art est imputable aux lois contre le culte des dieux païens, et est perdue à cause de l'iconophobie des premiers souverains chrétiens, depuis Théodose. Et comme je l'ai dit, lorsqu'il évoque les Grecs frustes, il parle évidemment des artistes byzantins, dont on voit des œuvres en Toscane au XIe et au XIIe siècle. Alors, il y a la tentative de la part de Ghiberti à la fois de retourner à l'Antique, mais en étant parfaitement conscient que l'Antiquité est terminée, elle est close. Enfin, elle n'est pas profondément à reprendre. Elle ne peut être objet d'analyse que parce que, justement, elle est loin de nous, elle est terminée, c'est une tradition qui est achevée. Il y a dans cette attitude plusieurs manifestations. Par exemple, le fait qu'il soit collectionneur d'art antique. Il collectionnait des objets antiques. Et des marbres, des bronzes aussi. Et après sa mort, en 1455, on a pu évaluer à 1500 florins la valeur de sa collection, ce qui n'est pas du tout négligeable. Plusieurs des œuvres qu'il possédait, des œuvres antiques, ont été achetées par le doyen de la chambre apostolique, un certain Giovanni Gaddi, dont le palais n'était pas loin de celui du palais Farnèse. Et il est mentionné, ce Giovanni Gaddi, comme étant l'acquéreur de la collection de Ghiberti. Et dans cette collection, il y avait en particulier une œuvre assez célèbre dans l'antique, un amour et psyché, appelé le Lit de Polyclète, l'Eto di Polycleto, qui sera acquis plus tard par l'empereur Rodolphe II, dont l'original est perdu. On dit aussi que Raphaël a voulu l'acquérir pour Alfonso d'Este à Ferrare, sans succès, et qu'après le sac de Prague, en 1630, cette œuvre a disparu. Donc nous n'en connaissons que des copies. Voilà un exemple d'une œuvre qui a connu vraiment une grande célébrité en raison de son thème, du traitement particulier de ce relief, et que Ghiberti possédait dans ses collections. Le fait de collectionner ces œuvres marque aussi, évidemment, une distance. Ça marque à la fois l'intérêt, bien entendu, qu'il éprouvait pour l'art antique, ça va de soi, mais ça marque aussi le fait qu'il considérait que ces œuvres pouvaient désormais être regardées comme un héritage, comme un patrimoine, comme une tradition interrompue, une tradition à laquelle le christianisme a mis fin. Alors, dans le troisième commentaire de Ghiberti, nous lisons surtout des notes de lecture glanées dans des auteurs antiques et médiévaux. L'éventail de ses intérêts est considérable. Je cite ici quelques noms de ces auteurs antiques et médiévaux. Vitruve, bien sûr, Alhazen, Avicenne, Averroès, Vitello, John Peckham et Roger Bacon. Ce sont en grande partie des auteurs qui soit sont des aristotéliciens, soit ont apporté beaucoup à l'étude de la perspective, mais de la perspective telle qu'on l'entend à l'époque, c'est-à-dire c'est l'optique. La perspective au Moyen-Âge, ce n'est pas la perspective théorisée par Alberti, c'est l'optique. Donc un grand intérêt pour la connaissance de l'optique au Moyen-Âge. Dans le troisième commentaire, il y a un certain nombre de passages admirables, je vais vous en lire un, et nous voyons aussi comment peu à peu Ghiberti s'introduit lui-même dans la séquence historique. Alors pour ce troisième commentaire, j'ai extrait ce passage. Aussi, une statue a-t-elle été trouvée, similaire aux deux précédentes. Inutile de résumer ce qui précède. Elle le fut dans la ville de Sienne, et une grande cérémonie eut lieu en son honneur. Les experts la considèrent comme une œuvre admirable, et sur la base est inscrit le nom de l'artiste, qui était un très excellent artiste nommé Lysippe. Le personnage avait relevé une jambe et celle sur laquelle il était appuyé avait la forme d'un dauphin. Cette statue, je ne la connais que d'après un dessin d'Ambrogio Lorenzetti, l'un des plus grands peintres de la ville de Sienne, et ce dessin est conservé avec le plus grand soin par un très vieux frère de l'ordre des Chartreux. Tout comme son père, ce frère était orfèvre, de son nom Fra Jacopo. Il savait dessiner et il prenait aussi grand plaisir à pratiquer la sculpture. Il entreprit de me narrer comment la statue avait été trouvée durant le creusement des fondations où se situent les maisons de Malavolti et comment tous les experts et les spécialistes de la sculpture, les orfèvres aussi et les peintres, accoururent afin de voir cette statue si admirable et si parfaite. Chaque personne qui la voyait la louait. Elle apparut à chacun des peintres qui étaient à Sienne comme étant de la plus grande perfection. Ils lui firent l'honneur de la placer sur leur fontaine comme une chose de grande distinction. Tous s'assemblèrent pour la placer avec magnificence, en grande festivité et avec les plus grands honneurs par-dessus la fontaine. La statue régna à cet emplacement pendant un court moment. Comme le pays était entré en guerre avec les Florentins, la fleur des citoyens de Sienne s'assembla en conseil. L'un d'eux se leva et parla ainsi de la statue. « Seigneur, citoyens, sachez que depuis que nous avons trouvé cette statue, nous avons été constamment gagnés par la malchance. Considérez combien l'idolâtrie est prohibée par notre foi. Nous devons admettre que Dieu nous a envoyé nos infortunes en raison de nos fautes. Et voyez les conséquences. Depuis que nous avons célébré cette statue, nous allons de mal en pis. Je suis sûr que tant que nous la garderons chez nous, nous irons toujours mal. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait la descendre, la détruire entièrement, la briser en morceaux, que nous enterrerons chez les Florentins. » Tous se montrèrent d'accord avec leurs concitoyens. Ils mirent son plan à exécution et ainsi la statue fut enterrée dans notre ville. Alors, déjà, l'histoire elle-même est racontée en fait par un artiste à un autre artiste. C'est ce Chartreux, lui-même bon dessinateur, donc artiste d'une certaine façon, qui la raconte à Ghiberti. Le récit est évidemment très intéressant. Il faudrait l'analyser longuement. Je n'ai malheureusement pas le temps de le faire. Il est très intéressant de plusieurs points de vue. D'abord, par rapport à tout ce que nous a appris l'anthropologie moderne sur les punitions rituelles de statues, qui sont très nombreuses. À la Réforme, par exemple, où l'on punissait des statues d'apôtres, par exemple, ou de saints, en leur brisant les bras ou en leur coupant la tête. On ne détruisait pas toute la statue, mais on la mutilait. Bon, ça, c'était quelque chose de tout à fait fréquent au XVIe siècle. En fait, il y a toutes sortes de manifestations de l'iconoclasme. Il ne faut pas s'imaginer que l'iconoclasme, c'est simplement la destruction pure et simple des images. Il y a des destructions rituelles, d'abord, et ces destructions rituelles peuvent être des mutilations. Ici, nous avons une destruction rituelle complète d'une figure, la briser en morceaux. On peut imaginer que les morceaux étaient relativement petits. Et on l'a enterré à nouveau chez les Florentins. On leur a restitué cette statue de malheur, puisque un groupe de pression très important de Siennois avait décidé de se débarrasser de cette statue. Cette statue est traitée véritablement comme un bouc émissaire. Et en même temps, il y a dans le récit qu'en fait Ghiberti, cette espèce de froideur avec laquelle il le rapporte, évidemment un jugement du caractère ridicule de ce geste venant de la part de la plèbe siennoise, c'est évidemment un peuple, une partie d'un peuple inculte qui n'est pas sensible à la beauté d'une œuvre d'art, qui a ainsi fait passer au premier plan son souci de vindicte, de vengeance vis-à-vis de la ville ennemie, pour lui retourner en quelque sorte la monnaie de sa pièce. Alors, dans le même passage, il y a un autre récit d'une statue trouvée à Padoue qu'on aurait trouvée dans un cercueil. Vous voyez ce caractère, comme on humanise la figure sculptée. Elle est traitée comme quelque chose de vivant dans un cercueil. On n'a pas l'habitude d'enfermer des statues dans un cercueil. Donc c'est comme si c'était un corps défunt. Et de la même manière, on a traité la statue comme ayant un pouvoir, la statue de cité auparavant, comme ayant un pouvoir magique. À la différence de cette statue dont il vient de parler longuement, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vue, qu'il n'a vue que par le dessin de ce moine, Celle dont il parle, trouvée dans une tombe, enfin dans un cercueil, pardon, à Padoue, il en donne une description enthousiaste. Il parle de sa beauté et, j'allais dire, c'est normal pour Ghiberti, il l'a vue de ses yeux. Il en a fait l'expérience personnelle. Donc il peut s'enthousiasmer pour elle, alors que dans le récit précédent, il ne l'a pas vue de ses yeux, il n'en a qu'un récit et un autre récit qui est un document visuel, mais qui n'est qu'un document de seconde main. Toute cette histoire racontée ici est très intéressante, encore une fois, en dehors de sa qualité presque littéraire, aussi parce qu'elle nous montre bien la différence de statut entre un objet vu et un objet évoqué, raconté par un témoin. Alors, l'histoire de la statue, on la connaît à peu près, on sait qu'elle n'existe plus. Ce fra Jacopino del Torcio, qui est un orfèvre, donc, a rencontré Ghiberti en 1416. Il avait vu, c'est un homme apparemment déjà très âgé, parce qu'il avait vu la statue avant 1357, qui est apparemment la date de sa destruction. Et cette statue avait dû être découverte avant 1348, qui est la date de la mort d'Ambrogio Lorenzetti. Donc vous voyez comment on arrive à peu près à reconstituer l'histoire de cette œuvre, qui a été quand même glorifiée par sa mise en place sur la Fonte Gaia de Sienne. On peut donc dire que, au fond, l'œuvre de Ghiberti, qui se met lui-même à un moment donné en scène, ne serait-ce déjà que dans ce récit sur l'œuvre perdue, l'œuvre antique perdue, c'est un homme qui a conscience qu'il est lui-même inclus dans une histoire. Le passé lointain ou proche est vu à partir d'une position bien singulière, unique, qui est celle de Ghiberti. Et en s'inscrivant ainsi dans l'histoire, je dirais que le problème de la dichotomie entre ancien et moderne ne se pose plus, puisque tout est vu à partir de sa propre perspective. Et par conséquent, le jugement qu'il peut porter sur l'art est toujours revendiqué comme un jugement subjectif. Alors, comme une sorte de contraste par rapport à l'œuvre de Ghiberti, à l'œuvre écrite de Ghiberti, je voudrais maintenant évoquer un autre nom illustre, d'ailleurs souvent mentionné à côté de Ghiberti, c'est celui de Brunelleschi, de grands artistes, de grands sculpteurs, et le deuxième aussi architecte de Florence, à travers un texte qui nous est connu, une vita, une vie de Brunelleschi. Et je vais essayer de vous montrer l'originalité de ce récit, de cet écrit, mais aussi les difficultés qu'il y a à l'interpréter, parce que l'auteur même de ce récit n'est pas tout à fait assuré. En tout cas, vous verrez souvent dans les ouvrages, même récents encore, que cette vie de Brunelleschi, qui nous est conservée, qui est un document extrêmement important, est attribuée à Antonio Manetti, ou encore Antonio di Tuccio Manetti, enfin Manetti, qui a vécu à partir de 1423 jusqu'en 1497. Et grâce à ce récit, en particulier, nous savons un certain nombre de choses biographiques, d'éléments biographiques très intéressants sur l'activité artistique de Brunelleschi, et nous apprenons aussi, d'une manière, je dirais, relativement détaillée, l'expérience célèbre de Brunelleschi à qui on attribue, d'une certaine façon, l'invention de la perspective géométrique à point de fuite unique. Alors, il faut que je commence un peu plus haut dans le temps. Il y a une, difficulté à savoir qui a écrit ce récit de la vie de Brunelleschi. Et je vous l'ai dit, l'attribution à Manetti n'est pas tout à fait assurée. Alors je pars d'un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale de Florence, un codex, incontestablement de la main de Manetti. Mais cela ne veut pas dire que tous les textes que comprend ce codex, qui réunit donc des textes différents, soient tous de Manetti. Il peut avoir recopié certains textes. Mais l'encre est la même, l'écriture est la même, et il n'y a pas de rature. Donc, il ne s'agit pas... Il s'agit de la copie d'un original, si vous voulez. Alors, une partie de ce codex s'appelle « Quattordici uomini », donc 14 hommes, écrit entre 1494 et 97. C'est une sorte de suite de deux famosis civibus de Villani, des hommes célèbres de Villani, des citoyens célèbres de Villani. Dans le même manuscrit, d'ailleurs, se trouve recopié le texte de Villani et Manetti va traduire ce texte en italien. Alors, les 14 hommes illustres que Manetti évoque sont des écrivains et des artistes en majorité, plutôt que des soldats, des prélats ou des hommes d'État, comme c'était le cas chez Villani. Ce choix est important. Il y a, statistiquement, sur 14, 8 sont des peintres et des sculpteurs. Donc il y a chez Manetti, incontestablement, un intérêt dominant pour l'art, en tout cas pour les artistes. Et alors, il existe un autre manuscrit, celui de la Vita di Filippo Brunelleschi, donc la vie de Philippe Brunelleschi, écrit vers 1480 ou 85, qui nous est parvenu sous une forme mutilée. C'est-à-dire, il manque apparemment des passages dans ce manuscrit. Mais ce manuscrit contient des éléments quasi superposable sur la vie de Brunelleschi à ceux qui figurent dans les Quattordici Uomini. Donc, certains historiens de l'art en ont déduit que cette vie de Brunelleschi doit être de la même main que ce recueil des 14 hommes célèbres. Alors, tout d'abord, la page de dédicace de la Vita de Brunelleschi est faite à un certain Girolamo, qui est sans doute Girolamo Benivieni, qui était un érudit florentin. Je parle dorénavant, je dis Manetti, je fais comme si Manetti était l'auteur de cette vie de Brunelleschi. Alors voici ce que dit Manetti. Tu désires, mon cher Girolamo, savoir qui fut Filippo. Je saute un petit passage. Savoir, puisqu'il était florentin et qu'il est mort depuis peu de temps, d'après son épitaphe, à quelle famille il appartint et s'il a des descendants ou des collatéraux et pourquoi il eut le grand honneur d'être enseveli à Sainte-Marie des Fleurs, où l'on plaça son portrait, fait d'après nature, c'est ce qu'on dit, et sculpté dans le marbre, pour garder sa mémoire à jamais, accompagné d'une si belle épitaphe. Vous voyez déjà ici l'importance du portrait pour maintenir la mémoire de quelqu'un, avec évidemment une inscription sans laquelle le portrait n'a pas de signification. Tu aimerais connaître l'an de grâce qui vit sa naissance et celui qui vit son trépas. Je te le dirai volontiers, pour autant que je le sache, quoique mon savoir ne soit pas grand. Je réponds d'abord à ton désir, parce que tu liras mon histoire comme une histoire véritable et non comme une fable parmi tant d'autres. Puis, parce que, de cette façon, ton esprit saisira l'homme en son entier, chose plus facile pour toi que pour beaucoup d'autres. En outre, tu seras plus satisfait de moi par ce biais que tu ne l'as été parfois de mes paroles, quand tu me demandais qui avait inventé et fait renaître cette façon de construire qu'on nomme à la romaine ou à l'antique, et qu'on essaye beaucoup d'imiter aujourd'hui, mais en vain. Tu voulais en effet savoir qui l'avait fait revivre, car alors toutes les constructions étaient gothiques, ou comme on le dit, modernes. Vous voyez bien ici la césure, et comment il fait l'éloge de cet architecte Brunelleschi, qui sait se tourner vers l'architecture antique, sait la comprendre, et qui sait la remettre au goût du jour et l'opposition avec les constructions dites modernes, qui sont en fait les constructions gothiques. Et tu comprendras combien grandes furent l'intelligence et la vertu de cet homme, d'un esprit hors du commun. Et tu verras à certains moments jusqu'où on peut témoigner de sa valeur et combien il méritait les honneurs. Tu sauras qu'il est, pour ainsi dire, l'inventeur de la façon de construire en usage de nos jours, tant dans les édifices publics que dans les privés, et que si, dans les édifices qu'il commença et dont il fut l'inventeur, on aperçoit quelques imperfections, elles sont dues à d'autres que lui, ou tu apprendras qu'on ne sait pas la vérité et à qui ces imperfections sont dues en partie. Comme tu as lu l'épitaphe, je m'attarderai plus sur certains faits qu'elle ne relate pas. Tu t'attacheras plutôt au sens de mes phrases qu'à la façon dont elles sont écrites. Les faits sont véritables, mais mes paroles sont celles d'un illettré. Et ne sois pas fâché si je ne suis pas l'ordre que j'ai annoncé. Alors, bon, simplement une observation sur l'importance qu'il accorde à un témoignage dont il insiste tout de même sur le caractère direct. Il apporte là des choses que l'épitaphe, donc une tradition scriptuaire, ne connaissait pas ou ne mentionnait pas, et qu'il écrit dans un style qui, ma foi, n'est pas celui d'un artiste. C'est d'ailleurs très intéressant de voir comment Vasari va reprendre ce type de topos en s'excusant presque d'écrire, tout en ayant une plume tout à fait forte. Alors, l'auteur de ces Quator Nici Uomini accorde une grande importance aux œuvres, lui aussi, donc une attitude, au fond, qu'il partage avec Ghiberti. On voit bien que Manetti est aussi un artiste, d'où d'ailleurs le faisceau relativement convergent d'arguments en faveur de l'attribution de cette vie à Manetti également. Et dans la biographie que Manetti accorde à Brunelleschi dans son livre, dans ses Quator Nici Uomini, celle de Brunelleschi est la plus longue de toutes. Et par son contenu, par sa structure, elle ressemble beaucoup à celle de la Vita. Il adopte un classement des œuvres de Brunelleschi, ce qui est très intéressant, non pas selon un ordre chronologique, mais en fonction de l'importance que lui, Manetti, leur accorde. Il y a là aussi quelque chose de parallèle à l'attitude de Ghiberti, c'est-à-dire qu'il part d'un jugement personnel, d'un jugement subjectif, sans doute qui est lui-même l'écho de ce que pensaient un certain nombre de personnalités florentines en jugeant les œuvres de Brunelleschi, mais c'est un jugement néanmoins subjectif, ce n'est pas une séquence chronologique. Ça, c'est tout à fait intéressant, même si Manetti se trompe dans l'attribution de certaines œuvres à Brunelleschi. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Par exemple, il lui attribue la Torre Petraia, qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Brunelleschi, enfin, qu'importe. Mais le bref commentaire ajouté à chaque œuvre contient une critique, évoque des erreurs émises tout comme dans la Vita. Alors, il y a un petit point délicat dans cette affaire, dans ce parallélisme entre la partie consacrée à Brunelleschi dans ses 14 hommes illustres et la vie de Brunelleschi elle-même. C'est que La chapelle Pazzi, qui est une des œuvres essentielles de l'architecture de Brunelleschi, la chapelle des Pazzi, est mentionnée dans les Quator Dici Uomini, c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire qu'elle est mentionnée, mais pas dans la Vita. Alors, il y a une hypothèse relativement simple, c'est que la Vita étant mutilée, comme je vous l'ai dit, eh bien, ce passage relatif à la chapelle Pazzi a disparu. Mais la chapelle n'était peut-être pas incluse dans la Vita à cause de la disgrâce dont ont pâti les Pazzi en 1478. Après l'expulsion des Médicis en 1494, le livre de Manetti pouvait de nouveau citer la chapelle des Pazzi. C'est peut-être là la raison profonde de l'absence de cette mention. Alors, il faut encore souligner le fait qu'il y a indiscutablement dans l'œuvre de Manetti une influence d'Alberti. Il est à la fois contre un certain nombre de positions qu'adopte Alberti et en même temps, il en est profondément marqué, profondément influencé, en particulier par le De Re a Edificatoria, la première édition de cet ouvrage théorique, de ce traité, paraît en 1485, lorsque Manetti écrit précisément sa Vita de Brunelleschi. Chose intéressante encore à rattacher à ce que j'ai dit tout à l'heure du goût de Ghiberti pour l'antique, Manetti nous raconte que Brunelleschi et Donatello faisaient des fouilles archéologiques à Rome, ainsi que des relevés archéologiques. Alors, on ne sait pas si c'est une invention de Manetti, si ça se fonde sur des événements réels. C'est une belle histoire, évidemment, de voir Donatello faire des fouilles et Brunelleschi faire des fouilles à Rome. Enfin, en tout cas, légende ou pas, Vasari a pérennisé ce récit. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'était une pratique relativement répandue chez les architectes dignes de ce nom qui s'intéressaient à l'analyse, à la connaissance approfondie des œuvres antiques. On peut dire que Alberti fonde ses propres conceptions architecturales sur une connaissance approfondie de l'antique, et Brunelleschi donne un air à l'antica, si je puis dire, à ses édifices, mais tout en gardant à ses édifices un caractère plus proche de l'architecture du Trecento toscan. On voit par exemple l'influence que des édifices plus anciens ont exercé sur lui. Même le baptistère roman de Florence est indiscutablement un des modèles de Brunelleschi. Alors, ce qu'il y a d'anti-albertien dans l'ouvrage, dans la vie donc de Manetti, dans la vie de Brunelleschi par Manetti, c'est que pour lui, ce qu'a fait Brunelleschi est bon, ce qu'ont fait ses successeurs ne l'est pas. Et la Vita doit être considérée par rapport à un changement général de goût, d'appréciation et sans doute de changement général aussi dans l'orientation des commandes faites par les Florentins au cours du XVe siècle. Je vais m'arrêter là et je terminerai la vie de Manetti, enfin la vie de Brunelleschi par Manetti la prochaine fois, tout en commençant à vous parler de Vasari.